Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc bienvenue pour notre message numéro 10 sur la série de la guérison et la bonne santé divine. Donc nous avons toute une série sur ce sujet, nous avons établi un certain nombre de principes et nous voudrions continuer dans cette direction. Et le titre pour aujourd'hui sera « Recevoir la puissance de guérison de Dieu ». Nous avons établi un certain nombre de choses qu'il nous faut savoir et c'est bon de voir cette série en continuité et dans l'ordre dans lequel nous les donnons. Mais il vient un moment où nous voulons vraiment expérimenter ce que Dieu a en réserve pour nous. Il y a un temps pour apprendre, un temps pour comprendre, et maintenant vient aussi le temps pour recevoir et pour expérimenter. Je rappelle que, par exemple, dans le message numéro 1, nous avions établi que c'est la volonté de Dieu de guérir. Et on avait dit cette phrase que je rappelle, c'est que dans certaines situations, les gens disent que Dieu peut. Ils ont la foi dans la puissance de Dieu, mais ils ne sont pas sûrs si Dieu veut. Et on avait dit que on peut à ce moment-là s'interroger sur leur foi en la compassion de Dieu. Parce que si Dieu peut, mais qu'il ne veut pas, on peut se demander s'il a vraiment cette compassion. Donc on avait vu que c'était la volonté de Dieu. Alors, puisqu'on parle de ça, puisqu'on a compris que Dieu, à l'image de Jésus, était ému de compassion pour ceux qui souffraient, et il a la puissance, nous voudrions maintenant comprendre ensemble comment fonctionne cette puissance de Dieu. Comment cette puissance de Dieu peut se manifester dans le monde physique, matériel dans lequel nous sommes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens ont entendu parler des miracles, on y croit plus ou moins, on croit que c'est du passé, ou on croit à certaines choses miraculeuses qui se passent à certains endroits, mais nous avons une vision des choses qui est selon la parole de Dieu, c'est que nous n'avons pas un endroit où il y a des miracles, nous n'avons pas une période où il y a des miracles, nous avons cette connaissance d'un Dieu de miracles, c'est-à-dire un Dieu qui a la puissance et qui a le désir de se manifester dans ce monde. Et ça, ça s'appelle un miracle, une intervention divine. Alors, pour comprendre comment cela se fait, on peut se référer à un passage des Écritures qui parle d'un autre sujet, qui ne parle pas de guérison, mais ça peut tout à fait s'appliquer. C'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, nous avons l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. L'ange qui apparaît à Marie, l'ange Gabriel, et qui lui dit « Voilà, tu vas avoir un enfant, et cet enfant sera, son nom sera Jésus, ce sera un fils, et il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Alors il dit beaucoup de choses merveilleuses sur cet enfant, et Marie pose cette question naturel, normal, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Donc elle fait référence à la façon naturelle dont les enfants sont conçus. Un homme qui s'unit à une femme, il conçoit un enfant, cet enfant grandit dans le sein de la maman, et puis un jour il vient au monde, il naît. Et elle se pose la question, comment une chose qui se passe naturellement et qui ne peut pas se passer puisque je n'ai pas de mari, je ne connais point d'homme, comment cette chose peut-elle se passer? Et l'ange lui répond et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et ça c'est notre réponse aussi. Comment la puissance de Dieu se manifeste? On peut dire la puissance de Dieu se manifeste de la même façon que ce que nous venons de lire dans les Évangiles. C'est-à-dire, il y a une manifestation de la puissance de Dieu qui, il fait quoi? Il couvre Marie de son ombre. Dans le message où nous parlions de l'onction, la guérison qui est le résultat de la manifestation de l'onction, nous avions parlé entre autres de l'ombre de Pierre. Dans les Actes des Apôtres, à un moment, il nous est dit que lorsque Pierre passait dans les rues, il mettait les malades en espérant que son ombre en couvrirait quelques-uns pour qu'ils soient guéris. Il en avait dit que ça ne peut pas être simplement la manifestation de ce phénomène naturel qui est qu'une personne exposée au soleil, il y a une partie qui est dans l'ombre. Et donc on avait dit que c'était en réalité quelque chose qui était autour de lui, qui représentait l'onction, la force de Dieu, la puissance de Dieu qui rayonnait de lui. Et donc de cette même façon, on peut dire que l'ombre du Très-Haut, la puissance du Très-Haut qui couvre Marie de son ombre, produit le miracle de la conception de Jésus dans cette femme. Et de la même façon, on peut dire que la puissance du Saint-Esprit, couvrant de son ombre, agissant sur quelqu'un, produit un miracle. Miracle de guérison, de restauration, un miracle au niveau d'une infirmité. On a vu que Jésus guérissait toutes sortes de maladies, d'infirmités. Et donc, voilà une des clés que nous avons dès à présent pour comprendre comment cela peut-il se faire. Donc l'onction, c'est la manifestation du Saint-Esprit. L'onction, c'est deux choses qu'on peut expliquer, l'onction, de deux façons différentes. D'un côté, ça peut être comme un baume, une crème qu'on pourrait appliquer sur une partie du corps en frottant, en voulant vraiment que cette crème puisse pénétrer jusqu'à ce qu'elle fasse son effet. Ça peut être une crème apaisante pour toutes sortes de maladies ou de maux. Et d'un autre côté, on pourrait dire l'onction, c'est comme quelque chose qu'on verse sur quelqu'un qui le recouvre et qui coule le long de lui-même. Donc c'est avec ces deux aspects, le principe est le même, c'est-à-dire que d'une façon certaine, ça cherche à la fois à pénétrer dans le corps et ça cherche à recouvrir le corps. Donc de la même façon, on peut dire la puissance du Saint-Esprit veut se manifester de cette façon. Donc pour recevoir la puissance de guérison de Dieu, il nous faut comprendre un certain nombre de choses concernant la puissance de Dieu. Premièrement, pour nous, quelque chose qui est important, c'est que il y a beaucoup de choses spirituellement qui doivent travailler ensemble. Donc on peut exhorter les gens à la foi, on peut donner des tas de messages sur la foi, ayez confiance en Dieu, croyez en la parole, etc. Et on se rend compte que malgré tous les efforts que certains peuvent faire, s'il n'y a que cet élément, il n'y aura pas le miracle. Quelque chose va manquer. D'un autre côté, on pourrait dire aussi, beaucoup de gens parlent de la puissance de Dieu, courent après la puissance de Dieu, recherchent la puissance de Dieu. Et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'échecs. C'est parce que nous devons apprendre comment les deux choses peuvent travailler ensemble pour obtenir le miracle. J'ai là un magazine que je ne vais pas vous dire duquel il s'agit, mais c'est pas tellement important. Simplement, c'est un magazine chrétien qui encourage les gens à venir à des réunions. Et je ne critique pas du tout, mais voilà ce qu'on écrit. « Rendez-vous de puissance ». On annonce des réunions pour dire rendez-vous de puissance. Et donc, il y a un des orateurs qui est présenté comme un puissant évangéliste. Un autre, on nous dit que c'est un homme dont la vie est hors du commun. Et les autres orateurs, on nous dit qu'ils sont formidables et puis vous allez recevoir en venant. Donc, moi, je crois que ça, c'est une bonne publicité. De toute façon, on ne va pas dire aux gens, venez si vous voulez, on ne sait pas s'il va se passer quelque chose. Il faut encourager. Mais je me suis dit, est-ce qu'on a le droit de dire à l'avance qu'il y a un rendez-vous de puissance? Est-ce qu'on a le droit de l'annoncer de cette façon? Finalement, quand on réfléchit, bibliquement, oui, c'est juste, parce que le rendez-vous de puissance, il est là. Là où les enfants de Dieu sont réunis, la puissance de Dieu est là. Et dans un instant, on va tout de suite voir un certain nombre de choses et une comparaison qui va beaucoup nous aider, c'est qu'on peut dire que l'électricité est dans le naturel ce que la puissance du Saint-Esprit est dans le spirituel. Donc si quelqu'un venait par exemple avec un appareil électrique chez moi, il voudrait peut-être s'assurer en disant, est-ce que tu as le courant pour que je puisse me brancher? Parce que sinon, peut-être ça ne sert à rien que je vienne avec un appareil électrique quel qu'il soit. Donc je peux lui dire, oui, j'ai le courant, tu peux venir avec ton appareil. Et à ce moment-là, on peut dire, dans ma maison, la puissance est présente. Maintenant, encore faut-il qu'il sache s'occuper de son appareil, qu'il sache correctement le brancher dans la prise électrique. Peut-être pour nous, ce n'est pas une chose très compliquée, mais on va voir que dans la parole de Dieu, certaines choses au niveau de la foi ne sont pas très compliquées non plus. Mais il faut avoir compris comment elles travaillent ensemble. Donc, on peut raisonnablement annoncer aux gens, venez parce que la puissance de Dieu sera présente. Et je dis, ces gens ont raison d'annoncer des réunions où il y a de la puissance. Ceux qui n'ont pas raison, par exemple, c'est de faire des déclarations du style, dans mon église, il n'y a pas de puissance. De faire une déclaration comme ça exprime simplement leur ignorance totale de ce qu'est l'église et de ce que c'est un chrétien. Puisque si nous regardons à certaines révélations de la parole de Dieu, un verset en particulier pour comprendre la puissance de guérison de Dieu, un verset qui va nous aider, c'est Éphésiens 3, verset 20, un verset qu'on utilise souvent pour vraiment nous stimuler dans la foi, pour dire oui, Dieu peut faire de grandes choses, et on va voir ce qui est dit ici. Il nous est dit, or à celui qui peut faire, c'est Dieu qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Oui, c'est vrai. Nous le croyons, ça. Nous croyons la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons lu à l'instant? Par la puissance qui agit en nous. Nous avons tous une puissance qui agit en nous. Chacun d'entre nous est le temple du Saint-Esprit. Aucun ne peut dire, moi je n'ai pas de puissance. Aucun ne peut dire, dans mon église il n'y a pas de puissance. À moins que ce ne soit pas une église et que tout le monde porte le nom de chrétien, mais que personne n'est vraiment né de nouveau. Mais là, ça serait vraiment une situation très très embarrassante, parce que c'est des gens qui portent le nom de Dieu et qui n'ont pas réellement Dieu dans leur vie. Mais sinon, en tant que chrétiens, nous avons cette puissance en nous. Donc de la même façon, on fait toujours le parallèle, nous avons une maison équipée avec de l'électricité, il y a de la puissance qui est disponible. Il faut savoir se brancher. J'ai vu aussi des fois dans mes voyages, vous avez des endroits où la tension n'est pas la même, d'accord? Donc il faut faire attention, si vous avez des appareils du 220 volts, il ne faut pas aller là où il y a du 110 ou des choses comme ça. Et vous avez des endroits où les prises électriques n'ont pas la même forme non plus. Donc si vous venez avec une prise électrique où il y a deux petits bouts de métal qui normalement s'enfoncent alors que là-bas c'en est trois, alors ça pose des problèmes. Mais sinon, il y a de la puissance dans une maison, de la même façon qu'il y a de la puissance dans chaque chrétien et qu'il y a de la puissance dans la maison de Dieu, qui est l'Église. L'Église est la maison de Dieu. Mais beaucoup ne savent pas utiliser cette puissance. Nous sommes toujours dans Éphésiens et nous regardons cette fois-ci au chapitre 1, la prière de Paul pour les Éphésiens. Qu'est-ce qu'il priait ? Verset 18. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Tout le monde dit sachiez. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. On dit l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et nous avions vu dans l'enseignement sur l'onction de guérison que l'onction, c'est la force de Dieu. C'est la force qui se manifeste. Donc la Bible nous dit ici que nous devons savoir quelle est la grandeur de sa puissance. Vous avez lu avec moi quelle est la grandeur de la puissance de Dieu ? Infinie. Il est dit, elle est infinie. Ensuite, nous avons vu que cette puissance se manifeste par la vertu de sa force. Elle se manifeste par l'onction. Et au verset 20, cette puissance qui se manifeste par l'onction, Dieu l'a déployée en Christ. Il l'a déployée. Qu'est-ce que ça veut dire déployée? Ben, on peut soit replier quelque chose, en faire un petit paquet, ou alors on peut déployer, ça veut dire l'étaler, le montrer au grand jour. Vous pourrez penser par exemple à un drapeau. Vous pouvez avoir un drapeau qui est enroulé, vous ne savez même pas à quoi il ressemble. Mais une fois qu'il est déployé, vous voyez toutes les couleurs, vous savez à quel pays il appartient. Ici, il nous est dit, la puissance de Dieu a été déployée en Christ. De quelle manière? En le ressuscitant des morts. Parce que pour nous, la mort semble être, et c'est bien, le dernier ennemi, celui que personne ne peut vaincre a priori. On peut vaincre beaucoup de choses dans la vie, on peut surmonter des épreuves, des obstacles, mais contre la mort, ça c'est pour l'être humain, c'est un combat perdu d'avance, naturellement. Et là, Dieu déploie sa puissance et il s'oppose à quelque chose qui pour nous humains est incroyable, c'est-à-dire incroyable dans le naturel, je parle, c'est-à-dire que quand on est mort, il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus de possibilité, et Dieu dit non. J'ai une puissance infinie qui peut même aller au-delà, et c'est de cette façon que Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts, le premier, pour que nous, on puisse le suivre dans la résurrection, et qu'on ait l'espérance d'une vie éternelle. Donc pour nous, on a cru à ça à cause de la parole de Dieu. Il a déployé la puissance, cette puissance que nous sommes en train de voir maintenant. Comment recevoir cette puissance? On pourrait dire déjà d'une certaine façon, ben elle est déjà en nous, cette puissance. Alors peut-être le mot recevoir, maintenant il faut un petit peu l'expliquer. On peut recevoir de plusieurs façons, l'accueillir, mieux reconnaître. Parce que le mot recevoir en français a aussi plusieurs significations. On peut recevoir un cadeau, on ne l'avait pas, et puis on nous donne quelque chose, mais on peut aussi recevoir quelqu'un. C'est-à-dire, recevoir quelqu'un dans sa maison, ça veut dire que non seulement il vient dans la maison, mais on lui fait bon accueil, on l'honore. Donc là, il y a peut-être une notion complémentaire. Ça peut aussi être pour quelqu'un qui n'a pas cette puissance de Dieu, et qui pourtant a besoin d'être touché dans son corps. Dieu a montré souvent dans sa parole qu'il ne guérit pas seulement les chrétiens ou des gens qui lui sont fidèles ou des gens qui marchent selon la parole de Dieu, mais il est arrivé aussi que Dieu guérisse quelqu'un qui simplement a un besoin dans son corps et que Dieu montre par là son amour, sa compassion. Donc nous pouvons déjà comprendre certaines choses sur la puissance de guérison de Dieu. Et que nous ne sommes pas des gens qui ont peu de puissance. Dans Luc 5, l'évangéliste nous dresse le tableau et il nous est dit que la renommée de Jésus se répandait, verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus, les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et ailleurs, dans la parole, il nous est dit que la puissance du Seigneur se manifestait. La puissance du Seigneur était là, à l'œuvre, alors que les gens étaient réunis. Verset 7, 17, oui, c'est ce que je voulais souligner. Verset 17, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc la puissance de Dieu était là. Et on voit dans certains passages de la Bible que ce n'est pas parce que la puissance du Seigneur était là que tout le monde était guéri. Ce n'est pas non plus parce que l'Évangile était annoncé que tout le monde y croyait. Au contraire, certains résistaient. Certains ne voulaient pas recevoir le message de l'Évangile, mais d'autres ne veulent pas recevoir la guérison, aussi curieux que ça paraisse, parce qu'ils rejettent Jésus, parce qu'ils ne veulent pas de lui. Voudraient peut-être se sentir mieux dans leur corps, mais ils refusent la façon dont Dieu les invite à recevoir. Mais pourtant, on voit que la puissance de Dieu était là. Et donc, on a un certain nombre de lois spirituelles. Comme il existe des lois dans le naturel, il existe aussi des lois spirituelles. On a besoin de les comprendre. Ben, l'électricité est régie par un certain nombre de lois. Si on fait de la physique, on étudie l'électricité, on comprend un certain nombre de choses. On peut dire là aussi, pour la puissance de Dieu, un certain nombre de lois s'appliquent et nous devons les comprendre. On peut dire la loi numéro 1, c'est que la présence de la puissance de guérison ne garantit pas elle seule votre guérison. Même si, comme j'en ai parlé, si vous alliez à ces réunions qui sont annoncées, rendez-vous de puissance, peut-être ces orateurs pourraient vous raconter, ils étaient ici et là, et toutes les grandes choses que Dieu a faites au travers d'eux, et vous venez plein d'espoir, peut-être des gens sont guéris autour de vous, et vous ne recevez pas. Vous ne pourriez pas dire qu'il n'y a pas de puissance. Si, ces gens ont été utilisés par Dieu, et d'autres ont pu témoigner. Mais il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris à ce moment-là, ou que vous n'avez pas saisi. Ce contact n'a pas été établi entre votre besoin et entre la provision de Dieu. Et ça, nous devons le comprendre. Et ce soir, nous ne parlons pas spécifiquement de la foi, mais c'est quelque chose qui doit toujours travailler ensemble. La foi, c'est le moyen d'accéder. Comme Éphésiens encore nous le dit si bien, vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8. Vous êtes sauvés par la grâce, c'est la faveur de Dieu, c'est Dieu qui vous donne ce cadeau, mais c'est par le moyen. Il faut trouver le moyen d'y accéder. On peut dire, nous avons aussi, j'ai parlé d'appareils électriques, un certain nombre d'appareils maintenant. Vous avez l'appareil en tant que tel, et puis vous avez un cordon qui relie l'appareil à la prise électrique. On peut dire que la foi, ça serait comme ce cordon qui permet de faire le lien et de se brancher sur la puissance. Et le fait que cette puissance soit là ne garantit pas que chaque personne présente va recevoir, mais seulement ceux qui auront ce toucher de la foi, qui pourront établir le contact, qui vont utiliser ce moyen que Dieu a donné. Donc, il y a des lois spirituelles. Et on peut dire que il y a quelque chose qui s'oppose. Vous pouvez avoir d'un côté la foi qui vous encourage à faire confiance à Dieu, dire oui, il est présent, oui, il veut agir, oui, il veut me faire du bien. Et d'un côté, et de l'autre côté, vous auriez la résistance. Tiens, résistance, c'est aussi un mot qu'on utilise dans le langage de l'électricité. Voyez, vous pouvez avoir une forte puissance électrique, et puis vous pouvez avoir entre, par exemple cette fois-ci une ampoule, vous pouvez avoir entre les deux une résistance. Et moi je me rappelle des petites expériences électriques qu'on faisait à l'école. On utilisait ce qu'on appelait un rhéostat. Donc on avait une espèce de fil qui était enroulé. Et à ce moment-là, on augmentait avec un curseur la longueur du fil où on le raccourcissait. Et selon le cas, alors on voyait l'intensité de la lumière de l'ampoule diminuer ou augmenter. Quelques-uns ont déjà vu ce genre de choses. Maintenant, on a de plus en plus aussi d'appareils pour éclairer, par exemple les halogènes, avec des curseurs qui permettent de réduire l'intensité. C'est le même principe. On a une résistance. On résiste, en fait, à cette puissance qui veut couler. Et ce qui existe dans le naturel, cette capacité d'avoir un matériau qui est résistant, ça existe aussi spirituellement. On peut avoir des personnes qui résistent. Elles décident de résister. Et la Bible nous parle beaucoup de résister. Elle parle aussi dans le sens, pour encourager les chrétiens, d'y résister au diable. Ne les laissez pas passer au travers de vous. Ne les laissez pas entrer dans votre vie. Ne les laissez pas. Mais en même temps, elle nous dit aussi de ne pas résister à Dieu, mais au contraire de nous soumettre à lui. Donc si on veut que la puissance de Dieu puisse couler au travers de nous, ça dépendra avant tout de notre attitude. Est-ce qu'on aurait une attitude où on va résister, on va se battre, on va même combattre Dieu en demandant des comptes, ou est-ce qu'on va laisser cette puissance de Dieu couler au travers de nous? Nous avons par exemple dans 1 Samuel, au chapitre 15, au verset 22, ce reproche du prophète à l'égard du roi Saül. Et Samuel lui dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. » Donc ici, il nous est question de la résistance. Il dit non, ne résiste pas. Si tu résistes à Dieu, c'est comme si en même temps tu t'ouvrais à l'ennemi. Puisqu'il nous est comparé ici à l'idolâtrie. Idolâtrie, ça veut dire qu'on choisit d'autres dieux. Peut-être des gens ne choisissent pas des divinités comme autrefois avec des statues, mais ils ont leur propre dieu. On peut être soi-même son dieu. On peut s'admirer, on peut trouver qu'on est quelqu'un de formidable. On peut adorer l'argent, on peut adorer sa profession, on peut adorer sa position sociale, beaucoup de choses. Et toutes ces choses prennent la place de Dieu. Et ici, il nous a dit, ces choses sont coupables, ces choses nous mettent sous la domination de l'ennemi. Et il nous a dit, c'est comme la résistance, résister à l'action de Dieu. Et au contraire, nous voyons dans la Bible des exhortations, comme dans Ésaïe 1, chapitre 1, verset 19, il nous est dit, « Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc vous voyez, nous avons une illustration ici, une exhortation de la parole de Dieu à ne pas résister, mais au contraire à être docile devant Dieu. Donc, on va voir une loi numéro 2. On a vu que la présence de la puissance de guérison, même si elle est là, même si on sait qu'elle est là, elle ne garantit pas elle seule notre guérison. Et la loi numéro 2, on va l'énoncer de cette façon, la puissance de guérison du Seigneur peut être présente sans que vos sens en soient conscients. Quand nous sommes ici dans cette pièce et que nous avons de l'électricité tout autour de nous, nous ne ressentons pas l'électricité. On ne ressentirait l'électricité que si on pouvait mettre nos doigts dans une prise de courant et ainsi s'électrocuter. Mais nous savons qu'elle est là, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. On en voit les effets. On peut dire d'une certaine façon, ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse vivre la même chose spirituellement. C'est que déjà qu'on ait cette assurance que la puissance de guérison du Seigneur est présente à cause de la parole, à cause de ce que nous savons, ce que nous avons appris. Vous vous rappelez que un verset qu'on utilise très souvent, c'est aussi Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Vous voyez un peu le cheminement qui peut se passer dans la tête de quelqu'un. Il se dit, je ne ressens rien, il n'y a pas de puissance ici, il ne se passe rien, et je mets exactement dans une situation où Dieu ne peut pas agir. À l'inverse, si on a cette révélation, quelles que soient les choses que je ressens, je sais que la puissance de guérison de Dieu est là, qu'elle est à ma disposition. Je me mets dans une position de foi, je me mets dans une position totalement différente. Donc nous avons besoin, une fois de plus, de réaliser que la puissance de guérison de Dieu ne se mesure pas par nos sens physiques. Ce n'est pas ça qui va déterminer. Donc on peut passer à la loi numéro 3. Pour pouvoir bénéficier de la puissance de guérison, vous devez d'abord croire en sa présence. Il faut d'abord se positionner et dire « je sais qu'elle est là ». Parce que si vous dites « elle n'est pas là », où allez-vous aller pour la chercher ? Vous pouvez courir partout et vous pouvez vous retrouver dans une réunion où il y a peut-être beaucoup de personnes autour de vous qui croient. Et il y a peut-être des orateurs formidables que Dieu utilise très souvent, peut-être des évangélistes qui ont souvent des guérisons extraordinaires, des miracles. Et il se peut que vous soyez encore une fois de plus au milieu de ces gens ne recevant rien à cause de votre attitude et votre position. Et là, ça crée beaucoup de problèmes, parce qu'à ce moment-là, la déception peut être grande. Des interrogations, disant, mais que se passe-t-il? Dieu ne m'aime pas, il me rejette, je suis le seul qui n'est pas guéri, qui n'est pas touché par Dieu, simplement à cause de cette ignorance à la base. Donc, il y a besoin d'abord de comprendre. Nous pouvons bénéficier de la puissance de guérison, mais nous devons d'abord croire en sa présence. Et quand je dis en sa présence, je ne parle pas de la présence de Dieu, je parle de la présence de cette puissance. D'accord ? La présence de cette puissance est là. Bien sûr, après on comprend que Dieu et la puissance de Dieu sont toujours ensemble. Et nous voulons parler de cet aspect maintenant, recevoir la puissance de Dieu. La loi numéro 4, on pourrait l'énoncer de cette façon. La puissance de guérison du Seigneur est présente dans deux cas. Et on va voir dans ces deux cas. Un des cas, c'est la prédication de la parole de Dieu. L'autre cas, c'est la manifestation des dons du Saint-Esprit. On va prendre ensemble Galates, puisque Galates est un livre intéressant. Tous les livres de la Bible sont intéressants, bien sûr, pour nous. Mais intéressant dans le sens que ça nous parle de personnes qui ont vécu un certain nombre de choses et qui, à un moment donné, dans leur marche avec Dieu, sont de nouveau tombées dans certains pièges du légalisme. On peut dire d'une certaine façon, leur raisonnement et leur tête leur a joué des tours, les pressions de certaines autres personnes aussi, qui voulaient à nouveau les enfermer dans le légalisme, dans la religion. Et Paul est en train de les interpeller au chapitre 3, il dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Vous êtes d'accord avec moi que recevoir l'Esprit est un miracle de Dieu. Au verset 2, donc on voit, vous avez reçu l'Esprit, comment ? Par les œuvres de la loi ? Bien sûr que non. La loi ne conduisait pas à recevoir l'Esprit. Mais par la prédication de la foi. La prédication de la foi, c'est la foi dans la parole de Dieu. On prêche la parole et la foi naît. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, l'apôtre Paul dit, voilà comment les églises se sont formées dans l'antique monde romain. Il allait, d'autres allaient, ils prêchaient la parole, la foi jaillissait, et des miracles se produisaient. On sait qu'un des miracles, c'est la nouvelle naissance. Les personnes entendent, ils reçoivent le salut, leur vie est changée, et qu'est-ce qu'on leur prêchait aussi? On leur prêchait, vous pouvez être remplis du Saint-Esprit, recevoir la puissance de Dieu. Et quand la prédication de la foi était là, il y avait aussi le miracle de recevoir l'Esprit. Alors il revient encore une fois avec cette question, verset 3, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Pourquoi cette souffrance? Cette souffrance naît du fait qu'il y a un combat entre la chair et l'Esprit, et il faut que celui qui veut suivre Dieu, qui veut marcher par l'Esprit, il faut que, des fois qu'il tienne bon, qu'il refuse de compromis. Qui refuse de marcher dans des voies qui étaient des voies anciennes, que d'autres ont prises. Peut-être il faut qu'il refuse de marcher comme tout le monde, comme les religions officielles voudraient qu'on le fasse. Et c'était le cas des Galates aussi, comme d'autres. Et donc il y a eu de la souffrance, mais il dit, c'est pas pour rien. Pourquoi ? Verset 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» À nouveau, il dit, « La prédication de la foi opère des miracles. » Ça permet à la puissance de Dieu se manifester. Donc, notre numéro 4, c'était la puissance de guérison du Seigneur est présente dans deux cas. Un, la prédication de la parole. On peut dire la prédication de la parole de Dieu, mais parole de Dieu ointe, où il y a l'onction du Saint-Esprit. Jésus disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air, ou des doctrines des hommes, ou des opinions, ou des avis. C'est plus que ça. C'est des paroles de Dieu qui produisent une différence, qui produisent un changement. Quand on entend ça, pour quelqu'un qui a eu une vie misérable, une vie de criminel, ayant fait je ne sais quel péché et choses horribles, et qu'on lui dit « tu peux naître de nouveau, tu peux recommencer ta vie, Dieu peut te changer ». Il va te pardonner tout ton passé. Ça produit chez lui quelque chose qui est extraordinaire, un nouveau départ, une nouvelle personne. Peut-être les autres ne le verront pas comme ça à cause de son passé, mais pour Dieu, ça peut devenir une réalité et pour lui aussi. La prédication de la parole apporte tout cela. Et donc, elle apporte aussi, pour ceux qui l'entendent, l'espoir d'un changement. Quelqu'un qui a eu une maladie, peut-être ce n'est pas une maladie vitale dans le sens qu'elle est mortelle, mais ça peut aussi être une maladie chronique. Et il peut aussi être pénible de souffrir pendant toute sa vie d'une maladie qui est toujours là pour vous ronger ou pour vous empêcher de vivre au quotidien. Donc il peut y avoir plusieurs choses. Ou une maladie où effectivement les médecins ont peut-être déclaré « ben voilà, c'est incurable, vous avez encore pourtant de temps à vivre ». Donc, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, la prédication de la parole apporte dans un premier temps l'espoir et dans un deuxième temps, elle apporte la foi de croire « c'est possible ». Et ça c'est un tremplin, c'est une voie pour que la puissance de guérison se manifeste. Donc la puissance de guérison est présente à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une promesse de Dieu. Dans Marc 16, il nous est dit au verset 20 que les disciples ont obéi au Seigneur, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et moi je crois que peut-être certains ont mal compris aussi ce que ça veut dire dans certains cas. Il n'est pas dit que quelqu'un prêche la parole et ensuite il y a un miracle et ça prouve que ce qu'il a prêché était juste. Ça peut être un petit peu dans ce sens. Mais plus important, c'est quelqu'un prêche la parole et Dieu confirme cette parole parce que cette parole s'accomplit. Si je dis maintenant, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il peut vous guérir, quelle que soit votre maladie, et que quelqu'un reçoit cette parole et le croit, Dieu confirme sa parole, le miracle s'opère, et cette personne reçoit. Donc ça, c'est un des aspects. La puissance de guérison du Seigneur est présente quand il y a la prédication de la parole. Cette prédication de la parole, on l'a vu, produit des miracles. Recevoir l'Esprit, commencer une vie nouvelle, expérimenter l'opération des miracles. Et l'autre aspect, l'autre cas, c'est quand des dons du Saint-Esprit sont à l'œuvre. Les dons du Saint-Esprit. On a la liste des dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12. Alors on va lire cette liste. Ce ne sont pas les seules façons que Dieu a d'agir, bien sûr. Saint-Esprit est, comme on l'a vu, illimité à la fois dans sa puissance et dans sa façon d'agir. Mais au travers de tous ces dons qui sont listés, ça fait déjà une bonne palette de tous les aspects par lesquels Dieu puisse opérer. Alors les dons de l'Esprit. On a vu tout à l'heure que Dieu veut qu'on sache un certain nombre de choses. Afin que vous sachiez, on avait lu dans Éphésiens. Et ici aussi, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 1. Alors, il nous est dit que le Saint-Esprit, il a différentes façons d'agir. Verset 4, il y a diversité de dons. Mais le même Esprit, le Saint-Esprit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et ça, c'est aussi une bonne promesse pour quelqu'un qui a besoin de santé dans son corps. Si le chirurgien ne peut rien faire, Dieu est celui qui opère tout et en tous. Il est toujours capable. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il n'est pas dit à chacun est donné toutes les manifestations de l'Esprit, mais moi je crois bien davantage que nous devons donc nous mettre dans une position où nous ne sommes pas résistants à l'Esprit de Dieu, et nous disons: Seigneur, utilise-moi comme tu le voudras, au travers de ces différentes manifestations. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ça veut dire une révélation surnaturelle de quoi faire dans certaines situations. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Une parole de connaissance, c'est une révélation de quelque chose qui a été ou quelque chose qui est dans le présent et qu'on ne pourrait pas savoir dans le naturel. La parole de connaissance est quelque chose qui est souvent lié à la puissance dans l'esprit des gens. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Si quelqu'un qui ne vous connaît pas dit des choses sur vous, dit: voilà, la personne qui est assise dans le troisième rang, le Seigneur te dit que tu as telle maladie et qu'il veut te guérir, ça impressionne immédiatement parce qu'il y a un côté vraiment spectaculaire. Et alors les gens disent: voilà, la puissance de Dieu est présente. Mais la puissance de Dieu était présente avant déjà. Simplement, il y a cette fois-ci une manifestation de l'Esprit de Dieu. Mais tout dépend. Est-ce qu'ils vont simplement croire parce qu'il y a cette parole, ou est-ce qu'ils vont croire parce qu'ils s'attendent à la manifestation de l'Esprit de Dieu? Même s'il y a une révélation extraordinaire, il faudra quand même qu'ils apprennent à savoir quoi faire de la puissance, comment l'accueillir. Parce que certains ne peuvent à ce moment-là, par la suite, être invités à ce qu'on prie pour eux, ou qu'on impose les mains, ou d'autres choses qu'on verra encore. Mais si à ce moment-là, ils sentent quelque chose, ils ne sentent rien, tout dépendra de ce qu'ils vont faire par la suite. Ce n'est pas tout d'avoir l'attention qui est attirée par un don de l'esprit merveilleux et spectaculaire. Il faut aller au-delà. Il faut aller étape par étape pour suivre ce que Dieu veut faire dans notre vie. Donc voilà pour un exemple de parole de connaissance. Un autre la foi par le même esprit, un autre le don des guérisons par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes choses et les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, voilà une des ressources que Dieu a données à son Église. La possibilité d'avoir le Saint-Esprit qui agit, qui opère, qui se manifeste. Dieu est invisible, mais il ne veut pas rester caché. Il veut se manifester au milieu de nous. Et donc, nous pouvons avoir cette assurance que la puissance de guérison du Seigneur, elle est présente dans les deux cas, que ce soit au niveau de la prédication de la parole ou au niveau des manifestations de l'Esprit. Loi numéro 5. La puissance de guérison est transmise au corps de différentes manières. Donc là, nous avons dans les évangiles en particulier, mais aussi dans les actes des apôtres, ou même certaines guérisons qui sont répertoriées dans l'Ancien Testament, nous avons un certain nombre de choses. Et je pense que ça donnera lieu à un message plus étoffé, plus détaillé, savoir les différentes méthodes de guérison. Mais je voudrais juste aborder 2-3 points pour qu'on puisse comprendre ça. La puissance de guérison, nous avons dit que c'est une puissance qui est présente dans l'Église et dans le croyant, mais il faut qu'il y ait ce contact entre la puissance qui est dans le domaine de l'esprit et ce que nous attendons dans le domaine matériel. On peut dire y compris pour nous-mêmes, parce que si Dieu réside en notre esprit, dans notre esprit il y a toute la puissance dont nous avons besoin. Mais notre esprit n'a pas obligatoirement et automatiquement un effet sur tout notre corps. Il faut pour cela que nous puissions libérer cette puissance. Donc il nous faut un point de contact. Il faut comme un établir un pont entre les deux. On a déjà dit que d'une certaine façon, le moyen c'était la foi, avoir cette confiance en Dieu. Si je crois que Dieu habite dans mon esprit, par son Saint-Esprit, si j'ai une parole de l'Écriture qui m'encourage, comme Romains 8 par exemple, je le prends pour faire la démonstration. Dans Romains 8, il est dit, au verset 9 et suivant, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. » Nous vivons dans la chair, mais on ne vit pas selon la chair. On ne se laisse pas conduire par les choses de la chair, celles qui ne sont que humaines, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Ça, on a vu que c'était le cas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous voyez toujours référence à ce grand événement, on peut dire, un événement clé dans l'univers, la résurrection de Jésus d'entre les morts, que le Saint-Esprit a opéré. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Il habite en nous. Et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Donc, si vous le croyez, ça, si vous croyez, j'ai le Saint-Esprit en moi, il communique la vie à mon corps. Il peut... Cette puissance de Dieu peut détruire une maladie, peut-être même une maladie que j'ignore. Peut-être que j'ai un dérèglement quelque part. Ça peut être hormonal, ça peut être au niveau de la composition du sang, ça peut être nerveux, ça peut être toutes sortes de choses. Peut-être il y a une tumeur quelque part. Peut-être elle est bénigne ou pas. Mais si je crois que cette puissance de Dieu, elle agit sur mon corps, je peux expérimenter une santé divine. Et nous devrions nous encourager à ça, de vivre une vie au-delà du standard humain naturel. Et de croire que le standard de Dieu, c'est, on l'a vu, Éphésiens 3:20, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire que nous pouvons nous préparer dès à présent à avoir une vieillesse heureuse. Si Jésus tarde pour à venir et que nous devenions âgés sur terre, on peut avoir une vieillesse heureuse. On peut encore porter du fruit, comme le dit le psaume 92. On peut ne pas avoir certaines maladies de dégénérescence, de perte de mémoire, de toutes sortes de troubles. On peut expérimenter la puissance de Dieu qui se communique à notre corps mortel. Voilà une façon de l'appliquer et de permettre, justement, comme cette puissance de guérison est transmise au corps, de plusieurs façons. Une des façons, c'est d'établir ce contact. Ce contact, c'est un contact spirituel, c'est par la foi, c'est par la libération de nos paroles. Voilà une façon. Un contact ou un point de contact, ça peut être un moment précis. Je fais une déclaration. Je dis aujourd'hui, à 22h, je déclare que je reçois cette puissance de Dieu qui agit en moi. Ça peut être un moment précis. Je dis, voilà, Dieu a fait quelque chose pour moi à ce moment-là. Pour d'autres, ça peut être un autre moment. On peut dire, par exemple, si le pasteur ou l'ancien ou l'évangéliste ou simplement une frère et une sœur en Christ ont prié pour moi, ont imposé les mains, c'est à ce moment-là que j'ai reçu ma guérison. Donc on peut le faire par la prière, par la déclaration, par un contact. Ça peut être au moment où je reçois l'onction d'huile. Et donc il y a cette puissance de guérison qui est transmise au corps de différentes façons. Ça peut être que quelqu'un qui a une onction qui se manifeste de façon forte, et il vous touche ou simplement passe près de vous, et ça se communique. Donc la puissance de Dieu, elle est présente. Elle peut se manifester. À nous d'y croire, à nous nous ouvrir à ça, et de vivre dans ce domaine spirituel où nous voyons ces choses se passer. Loi numéro 6. Quand la puissance de guérison vous est transmise, il se peut que vous la ressentiez, ou que vous ne la ressentiez pas. Dans Marc 5, la femme qui était atteinte de la perte de sang a touché le bord du vêtement de Jésus et nous a dit, elle a senti aussitôt dans son corps qu'elle était guérie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben simplement qu'avant elle avait mal et maintenant elle n'a plus mal. Donc elle a senti qu'elle était guérie. Elle a pu aussi sentir quelque chose de l'onction de Dieu. Mais la Bible ne nous le dit pas, vous voyez? On ne peut pas dire, elle a senti quelque chose, donc il y avait obligatoirement une chaleur ou des frissons ou je ne sais quoi. Bon, peut-être, des fois, l'onction de Dieu se manifeste comme ça. Des fois, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour elle, elle a senti quelque chose. Et aussi, Jésus a senti quelque chose. Il a senti qu'une force était sortie de lui. Donc, dans ce cas, la Bible nous décrit que les deux, celui qui a communiqué la guérison et celui qui a reçu, les deux ont ressenti quelque chose. Mais une autre personne pourrait peut-être ne rien ressentir du tout. Et pourtant, quelque chose est en train de se passer. Peut-être la douleur non plus ne disparaît pas tout de suite. C'est possible aussi. Est-ce que pour autant il faut dire, je croyais que Dieu allait me guérir, je vois qu'il n'en est rien, alors tant pis, je n'y crois plus maintenant. Et alors, et si vous n'y croyez plus, vous voulez faire quoi? Si vous voulez vous tourner vers les médecins, les médicaments, vous avez le droit de le faire. Mais il vous faudra quand même la foi que Dieu va agir à travers de ces médicaments, à travers de ces médecins. Donc, dans n'importe quelle situation, ce n'est pas le moment de tourner notre dos à Dieu et de dire « il ne veut rien faire ». Mais de toute manière, il nous faut lui faire confiance. Donc, qu'on sente quelque chose, qu'on ne le sente pas, nous avons des exhortations à croire quelque chose se passe. Dieu est en train d'agir et de continuer de le dire. Toujours. Pourquoi on est si rapide à dire voilà ce que le diable fait, voilà comment il me poursuit, comment il me harcèle, voilà comment les choses vont de travers. Les gens ont une facilité de parler de tout ce que le diable fait et une vraie difficulté à parler des choses de Dieu. Il y a une vraie opposition spirituelle, c'est évident. La loi numéro 7, c'est que la puissance de guérison de Dieu peut être en vous et y demeurer inactive. Vous avez été touché, la parole a été prêchée, vous avez reçu quelque chose de Dieu, vous n'avez rien ressenti, et malgré tout, c'est le moment pour vous d'agir et de laisser cette puissance de Dieu devenir active. Alors, il y a deux, trois passages dans les Écritures qui nous montrent, peut-être, vous allez me dire que ce n'est pas exactement ce sujet, mais peu importe, c'est le même principe qui agit. Dans 1 Timothée 4, 14, il nous est dit, l'apôtre Paul exhorte Timothée et dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. » Ben, transposez un instant. Est-ce que vous croyez que une action du Saint-Esprit pour votre guérison, c'est un don de Dieu ou c'est pas un don de Dieu? C'est un cadeau de Dieu. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas ce que Dieu vient de te donner. Peut-être il t'a été donné avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Peut-être ça s'est fait comme ça. Voyez donc, et à ce moment-là, il ne nous avait pas dit voilà, c'est bon, c'est terminé, tu n'as plus rien à faire. Mais ici la Bible dit, ne néglige pas, comprends que tu as quelque chose à faire à ce sujet. Tu dois le garder actif. Dans 2 Timothée, au verset 6, chapitre 1, verset 6, à nouveau il doit exhorter Timothée en disant, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, il y a là, pour un serviteur de Dieu, une nécessité de réveiller quelque chose de spirituel qui est déposé en lui, mais il n'en fait rien. Ou il en fait très peu. Donc, on a besoin de se réveiller, croyez pas? La Bible l'écrit à plusieurs endroits, réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera, beaucoup d'exhortations comme ça. Nous avons toujours cette tendance à nous laisser engourdir, endormir spirituellement. Donc on a besoin de comprendre ça. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, quelque chose qu'il faut cacher, mais son esprit, au contraire, il nous a dit au contraire, Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Son esprit nous remplit de force. On avait vu dans l'enseignement sur l'onction que c'est la force de Dieu qui est communiquée par son esprit. Et c'est l'onction qui fait éclater le joug. Ésaïe 10, 27. L'onction fait éclater tout joug de servitude. Tout joug. La puissance de guérison de Dieu peut être en nous et demeurer inactive. Un autre exemple aussi par rapport à l'inaction de certaines choses spirituelles en nous, dans Thessaloniciens, concernant les dons de l'Esprit, manifestation de l'Esprit, chapitre 5 et verset 16, des exhortations qu'on connaît bien. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est une façon d'avoir notre don qui est actif. Rendre grâce à Dieu. Dire merci Seigneur, je crois que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois que c'est ta volonté que je sois en bonne santé. Je crois que c'est ta volonté que cette puissance de Dieu puisse chasser la maladie, me redonner des forces, de l'énergie, de tout ce que vous avez besoin. C'est une bonne façon, c'est la volonté de Dieu à votre égard. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas. Tiens, c'est intéressant, on avait parlé d'électricité, vous voyez ? N'éteignez pas l'esprit. C'est comme si il était là, mais on peut l'éteindre. Et de la même façon, il y a certains systèmes où vous avez même de l'électricité qui est consommée alors que vous n'avez pas le résultat. Vous pouvez bloquer l'électricité qui arrive et certaines choses avec les résistances, ça consomme malgré tout. Hein. Il y a un peu d'électricité qui est consommée et pourtant vous n'en faites rien. Vous avez donc cet esprit qui est en nous, ici c'est au milieu de l'assemblée. Dieu vous donne l'esprit, les dons de l'esprit, ne l'éteignez pas. Ne méprisez pas les prophéties. Prophétie, ça veut dire parler de la part de Dieu. Ne méprisez pas les paroles qui viennent de la part de Dieu, parce que ces paroles vont produire un changement. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On a vu dans d'autres messages que la guérison est une bonne chose. Examinez, retenez ce qui est bon. Retenez l'idée que Dieu veut faire quelque chose de bon parmi vous et en vous. Abstenez-vous de toute espèce de mal. On a vu que certains obstacles à la guérison, à la bonne santé, ça pouvait être faire le mal, faire l'inverse de la volonté de Dieu. Donc, la puissance de guérison de Dieu peut être en vous, mais aussi inactive. Donc, soyons attentifs à ça. Et la loi numéro 8, et ça sera notre dernière, dès que la puissance est reçue, maintenez allumé l'interrupteur de la foi. À nouveau, cette illustration d'une lumière. Si vous rentrez dans une pièce qui est sombre et que vous avez de l'électricité, vous appuyez le bouton, vous êtes content si ça se met en route, vous y voyez clair, vous n'êtes pas obligé de vous cogner les pieds à des objets ou des obstacles, mais vous ne voulez pas juste l'allumer pour une minute et puis l'éteindre. Si vous voulez demeurer dans cette pièce, vous voulez continuer de voir. Vous voulez pouvoir y vivre, vous voulez pouvoir y faire quelque chose, sauf si c'est pour dormir, mais ce n'est pas notre sujet. Mais on veut pouvoir profiter de la lumière qui est là. On peut dire qu'une certaine façon, le Saint-Esprit, c'est lui qui est la lumière, la parole de Dieu, c'est elle qui nous éclaire. Donc, il y a besoin aussi de maintenir allumé l'interrupteur de la foi. Et surtout pas éteindre l'esprit. Vous savez, il y a certaines choses qui attristent le Saint-Esprit. Et parmi ces choses, en particulier, les paroles mauvaises. Ça, c'est l'exhortation de Éphésiens 4, quand il est dit de ne pas mentir. Mentir, c'est pas juste essayer de tromper quelqu'un, mais mentir, c'est aussi dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Éphésiens 4, 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, on pourrait dire même, et à soi-même aussi. Parlons selon la vérité. Et un peu plus loin, il est dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Des paroles mauvaises, c'est ce que les gens disent constamment. je vais mourir, je ne vais pas m'en sortir, il n'y a rien à faire, c'est un mal incurable, mes parents sont morts et donc c'est normal, mon corps se détériore, ma mémoire devient de plus en plus mauvaise et tout le reste des choses. Il nous a dit, ce sont des paroles mauvaises. Elles ne servent pas à l'édification. Elles ne communiquent pas une grâce à ceux qui l'entendent. Et vous êtes la première personne qui vous entend. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Scellé, un sceau, ça veut dire, c'est une marque sur nous. Le Saint-Esprit est comme une marque. Nous sommes marqués. Comme dans certains films, on voit... des fois, quand ils prenaient les bêtes, ils mettaient une marque au fer rouge pour dire, voilà, cet animal m'appartient. On est marqué, scellé par le Saint-Esprit. Pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire que nous attendons un jour qui viendra où nous aurons un corps nouveau, un corps incorruptible, qui ne pourra plus connaître rien du tout des misères qu'on peut avoir sur cette terre. Mais dès à présent, le Saint-Esprit est là comme pour nous donner un acompte de ce que nous attendons, et nous attendons le meilleur. Maintenez allumé l'interrupteur de la foi. Il n'y a pas longtemps, on parlait aussi de certaines choses concernant la lumière, et on a parlé avec quelqu'un du fait que dans certains élevages, de volailles en particulier, eh bien, on mettait la lumière de façon artificielle pour favoriser la croissance des petits poussins. Donc non seulement la lumière, elle produit aussi de la chaleur, alors ça chauffe, ça fait cet effet que la mère poule couvait son petit, mais avec la lumière, ça favorise la croissance. On est en train d'aller au-delà de la loi naturelle de la croissance, et d'une façon artificielle, par cette lumière, on pousse la croissance de ces animaux. Alors quel beau parallèle pour nous de voir que par la lumière de Dieu, par ce que nous avons allumé par la foi dans notre vie, nous pouvons pousser la croissance. La croissance de quoi? De ce que nous attendons dans l'esprit, de cette guérison, de ce besoin quel qu'il soit. Gardons cette lampe allumée. Marc 4, et j'illustre par là. Une lampe allumée, on peut dire nuit et jour. Vous allez dire que ça c'est fatigant, nuit et jour, mais pas pour nous, parce que c'est la foi qu'on fait travailler. C'est pas nous qui travaillons, c'est notre foi qu'on libère. Marc 4, verset 26, Jésus dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe, et croit sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Un processus naturel de croissance. Et on veut aller jusqu'où? Jusqu'au final, jusqu'au fruit. On ne s'arrête pas en cours de route. On ne veut pas juste avoir un peu de verdure dans notre jardin pour faire joli. On veut un fruit. On veut quelque chose qu'on puisse consommer. Et ici, la Bible nous dit comment ça se fait. Et on peut dire d'une certaine façon, la personne qui a semé, elle a terminé son travail. Alors, il y a des situations où on peut peut-être encore s'occuper des mauvaises herbes, arroser ou faire d'autres choses pour favoriser la croissance. Et ici, c'est juste l'illustration de la semence. La semence, c'est les paroles qu'on dit. Après, les choses sont en route. On garde l'interrupteur allumé. On n'éteint pas. Ou, avec d'autres mots, on n'arrache pas la semence en disant « ça n'a servi à rien, tu as bien vu, rien ne s'est passé ». Non, au contraire. On continue comme on avait vu tout à l'heure. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce à Dieu pour toutes choses en Jésus-Christ, car c'est sa volonté à notre égard. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. dès aujourd'hui? Devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.